Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Donc la table ronde, on a invité quatre intervenants. Béatrice Jarige, qui est membre du Shift Project et qui a travaillé plus particulièrement sur la décarbonation du transport longue distance. Donc elle nous a dit un mot. À côté d'elle, donc suivant, c'est Aurélien Bernier. Aurélien Bernier, lui, est plutôt spécialiste des thèmes sur l'énergie. Il a écrit plusieurs fois dans le monde diplomatique et vous avez plusieurs ouvrages qu'il a réalisés qui sont sur la table de lecture à l'extérieur. On a Philippe Descamps, journaliste au monde diplomatique, et il travaille beaucoup sur ces questions environnementales, ces questions de mobilité, ces questions d'urbanisation, je dirais. Et Olivier Lefebvre, qui est ici de Toulouse, qui est lui membre de l'ATECOPOL. L'ATECOPOL, c'est l'atelier d'écologie politique. C'est une organisation, il en ira peut-être un mot, essentiellement d'universitaires, mais qui donc travaille en collectif sur ces thèmes environnementaux. Et Olivier est lui-même enseignant de philosophie dans les universités toulousaines et à l'Institut Polytechnique de Toulouse. Voilà, je n'en dis pas plus, je crois que je n'ai rien oublié, et à tout à l'heure. Merci.
Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Donc on a environ 2 heures à passer ensemble, et donc on va avoir un premier temps d'échange, un premier tour de table qui va poser un constat sur la question des transports, leur utilisation d'énergie, s'interroger sur le présent avec éventuellement quelques mises en perspective historiques. Et dans un deuxième temps, on fera un deuxième tour de table avec nos invités qui permettra de se projeter un peu sur l'avenir, de voir quelles sont les solutions de transport futur et éventuellement les transformations sociales nécessaires, d'habitude, de mode de vie vis-à-vis des transports. Donc on va démarrer notre tour de table. Je ne représente pas nos trois invités, Jean-Pierre l'a déjà fait. Et donc pour poser ce constat, essayer de voir comment est-ce qu'on se déplace aujourd'hui, quelles sont les implications énergétiques de nos transports, les implications, les effets environnementaux de manière générale des transports. Alors ça a été déjà bien introduit par les deux films précédents, mais je ne sais pas si tout le monde y était. Et pour démarrer, Béatrice, donc tu travailles au Shift Project spécialement sur la décarbonation des transports. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, évidemment, du Shift Project, nous présenter cette institution et voir, selon vous, voilà, quel est votre bilan de l'impact des transports sur l'environnement, l'empreinte carbone, je vais te mettre tes slides, pardon, l'empreinte carbone des transports aujourd'hui, comment est-ce qu'on se déplace? Ah oui, tu l'as relancé.
Ouais, donc je vais juste vous poser un petit peu l'exercice qu'on a fait au Shift Project, et après ces deux beaux films et cette belle intro, et puis je me permettrai d'être un peu plus précise sur le sujet que je connais le mieux, qui est celui des transports de voyageurs à longue distance. Alors le Shift, c'est une association qui a été créée en 2010, qui est complètement française, hein, comme son nom ne l'indique pas, mais c'est une petite association française qui se donne pour mission de travailler particulièrement sur les sujets d'énergie et de climat. Donc en plein le sujet qu'on traite ensemble aujourd'hui. Donc la caractéristique, c'est qu'on produit beaucoup d'analyses robustes et chiffrées. C'est un ramassis d'ingénieurs et de gens qui aiment bien essayer de poser clairement les diagnostics. L'objectif, c'est évidemment derrière d'influencer le débat public, donc de mener des campagnes de lobbying auprès des décideurs économiques ou politiques, et de monter un certain nombre d'événements et de partenariats à cet effet. Et puis, ouais, il y a une association sœur qui s'appelle les Shifters. En fait, il y a plusieurs milliers de personnes, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs connaissent ou sont membres de l'association. Il y a, je crois, pas loin de 3000 inscrits, sans compter tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, ça fait pas loin de 15 000 personnes qui sont proches du Shift, on va dire, et qui contribuent aux analyses. Ça enrichit pas mal les analyses qui peuvent être proposées. La double contrainte carbone, c'est quelque chose qu'on aime bien énoncer chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une première contrainte qui est à laquelle on pense peut-être en premier, qui est celle sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut évidemment maîtriser, diminuer pour être conforme aux engagements des accords de Paris. Et puis il y a aussi une contrainte spécifique liée aux énergies fossiles, puisque ce sont des énergies qui risquent d'être sur le déclin. Donc voilà, comment on va gérer ça derrière? Est-ce qu'on est capable de produire d'autres sources d'énergie pour prendre le relais? Le graphique là que vous voyez, bon, je ne sais pas s'il est très utile de le commenter, peut-être juste signaler que ça donne l'idée de sources d'énergie qui se superposent les unes aux autres. Tout en bas, on a le charbon, et on voit que finalement, même si bien d'autres sources d'énergie sont venues se rajouter depuis le début du XXe siècle, essentiellement, le charbon est à peu près stationnaire quand même sur très longue période. Et les autres sources d'énergie, c'est pareil, le pétrole, bon, peut-être on atteint un pic, c'est un peu ce que je vous disais à propos de double contrainte carbone, et avec sans doute une redescente, mais pour l'instant, ça s'est additionné. Donc voilà, on est dans un monde toujours plus gourmand en énergie. Donc le chiffre depuis deux ans et demi, s'est lancé dans une démarche qu'on appelle PTEF, Plan de transformation de l'économie française. C'est un plan, comme son nom l'indique, qui vise à balayer l'ensemble des secteurs de l'économie, finalement, ce qui est ambitieux, pour essayer de voir concrètement comment il pourrait se mettre sur une trajectoire de baisse des émissions, sachant que ce qu'on recherche, c'est donc diviser par 5 en 30 ans nos émissions. En gros, on est à peu près, vous le savez peut-être, à peu près à 10 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an actuellement en France, et il faut passer à 2 tonnes. Il y a des ateliers d'ailleurs de simulation qui s'appellent 2 tonnes. L'objectif, c'est 2 tonnes par personne, parce que c'est le potentiel estimé des puits de carbone, la capacité à absorber des forêts, des prairies. Donc c'est une division par 5. Voilà, le but de l'exercice, c'est ça. Et c'est aussi donc la contrainte sur l'énergie, parce que l'énergie, même décarbonée, on sait que ça va être très compliqué de la produire. Donc on voit bien le sujet en ce moment. Et puis, 2050, c'est pas si loin que ça. Donc, déployer des capacités d'énergie renouvelable ou de nucléaire, ça va pas être complètement simple. Et on sent bien, et on va le démontrer au cours de notre exercice, que la sobriété sur la demande est totalement indispensable si on veut boucler l'exercice. Voilà. Donc ça, c'est le plan. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site du Shift ou vous tapez ilnousfautunplan.fr. Et vous allez trouver un certain nombre de rapports par secteur. Par exemple, il y a décarboner la culture, décarboner la santé, etc. Plus des documents transverses, donc notamment un sur l'emploi, puisque on s'est penché sur les emplois nécessaires pour réaliser la transformation, et également un autre sur l'énergie, l'évaluation énergie du plan, qui consiste à regarder comment, entre la demande et l'offre, les choses bouclent. Ce graphique sont les résultats du plan. Vous voyez que les différents leviers appliqués dans les différents secteurs des usages ont permis d'avoir une réduction forte de la consommation d'énergie, puisqu'on la divise par 2, mais ce qui est indispensable donc pour boucler l'équation. Bon, ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. En gros, ça dit qu'on a à peu près atteint notre objectif, qui était de diviser par 5. Je peux être trop longue. Il y a des sujets intéressants qui sont sur les risques de conflit d'usage, puisque on va électrifier massivement en fait les usages. Et donc, on se pose nécessairement la question après des priorités à attribuer aux différents utilisateurs, des conflits sur la biomasse, avec différents secteurs qui vont en demander. Sur les transports, par exemple, il y a une possibilité d'en utiliser pour les avions. Mais est-ce que les avions sont prioritaires par rapport à d'autres usages? Est-ce qu'il faut mettre en culture une partie du territoire français pour donner à boire aux avions? C'est une question qui va se poser. Sur l'hydrogène également aussi, qui est un vecteur d'énergie dont plusieurs secteurs peuvent avoir besoin, qui est très, très consommateur d'électricité si on le produit par électrolyse de l'eau, qui est quand même la seule méthode propre pour le faire. Et donc, à limiter, tous les secteurs dans notre plan ne sont pas appelés à utiliser cette ressource-là. Bon, quelques éléments de portrait du secteur. Donc ça, sur longue période, je vous ai mis source Aurélien Bigot, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune chercheur. Moi, je l'ai connu quand j'étais à la SNCF. Il était venu comme stagiaire. Puis il a continué avec une thèse sur ces sujets-là. Et notamment, il a beaucoup travaillé sur des séries très longues et la notion de vitesse dans les transports et la nécessité de décélérer également. Donc là, voilà, des courbes qui montrent essentiellement que... ça augmente énormément. Comme dit dans les films tout à l'heure, globalement, on a quand même un peu décarboné l'économie française ces dernières années, sauf les transports qui, eux, continuent à beaucoup augmenter. Et vous avez quelques proportions, notamment la part très importante du routier, qui est assez frappante, je pense, sur ces graphiques. Alors... marchandises. Alors, sur le sujet des transports, en fait, on a découpé nos réflexions en trois morceaux. Les transports, donc, c'était 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est évident qu'on y pense fort quand on entame un plan sur la transformation de l'économie française. Et le fret, c'est à peu près donc un tiers des 30% en question, représente 30%. Et les voyageurs, on a découpé en deux parties, en mobilité locale et mobilité longue distance. Voilà. Et moi, j'ai plus particulièrement travaillé sur le sujet de la mobilité de longue distance. Voilà, donc le fret, la route représente près de 90% du trafic. 86-88, quelque chose comme ça. Et le ferroviaire est à peine à 10%. Ce qui, au passage, n'est pas un bon score au niveau de l'Europe. On est à peu près à la moitié. La part de marché moyenne en Europe, c'est plutôt 18%. La Suisse, qu'on a vu tout à l'heure dans le film, eux, ils sont à 35%, mais c'est vraiment un cas très particulier, hein, qui est inspirant certainement, mais très particulier. Ils mettent beaucoup d'argent dans leur chemin de fer aussi, beaucoup, beaucoup plus que nous. Donc voilà, ça c'est les marchandises. Répartition par mode des déplacements, tout ça c'est on passe à la mobilité dite quotidienne ou qu'on peut appeler plus proprement locale d'ailleurs parce que c'est les déplacements de moins de 80 km, la distance scientifique telle qu'elle est dans les enquêtes publiques qui permettent d'avoir les chiffres, c'est les déplacements à moins de 80 km à vol d'oiseau du domicile et qu'on mesure un jour de semaine en général. Donc là, on a, même si la voiture est très légèrement en régression dans les résultats de l'enquête, la dernière qu'on a, elle a été menée en 2018-2019, juste avant crise Covid. Donc c'est assez intéressant, ça nous donne une photo juste avant crise. Et la précédente, c'était 10 ans auparavant. C'est des grosses enquêtes publiques qui sont faites tous les 10 ans, en fait, qui font référence. Dans le milieu, c'est mené par le ministère et l'INSEE. Donc la voiture est en très très légère régression, mais vous voyez qu'elle reste ultra dominante. Donc 63% des déplacements Camembert d'en haut, 82% si on tient compte des distances parcourues, puisque la marche à pied, par exemple, 24% des déplacements, tombe à 3% quand on tient compte de la distance qui n'est que de 1 km par personne, enfin par déplacement. Voilà. Après, mobilité de longue distance, donc portrait de la situation, c'est l'enquête dont je vous parlais qui a servi surtout à faire ce portrait. Donc on a 6,3 voyages par personne et par an en moyenne. Donc un voyage c'est un aller plus un retour, plus éventuellement des déplacements intermédiaires. 7620 km par an, ce qui n'est pas très loin de l'autre mobilité dont on vient de parler juste avant, locale. En fait, la mobilité locale, c'est beaucoup de déplacements, mais courts. Hein. C'est 12 km en moyenne par déplacement. Là, c'est beaucoup moins de déplacements, mais plus longs. Et finalement, 7600, l'autre mobilité, c'est environ 8000 km par an. Donc, vous voyez, un Français parcourt à peu près autant de kilomètres à titre quotidien et local et à titre de la longue distance tous les ans. C'est assez, assez intéressant, assez facile à mémoriser. On s'est intéressé au voyage par motif, gros intérêt de l'enquête, puisque derrière, ce qu'on va chercher, c'est les leviers pour transformer les comportements. Donc on a beaucoup d'intérêt pour cette question de savoir si on se déplace pour des visites aux parents et aux amis, qu'on a un peu sanctuarisé d'après, dans la suite du raisonnement, pour les vacances. Les vacances, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on choisit d'un seul mouvement l'endroit où on va et le mode de transport. Donc, on sent qu'il y a moyen à la fois de reporter, faire du report modal, pur et dur, mais aussi de changer les pratiques, changer les destinations, changer la durée des séjours sur place, enfin, un nombre de choses. L'enquête aussi, évidemment, permet de croiser avec les niveaux de revenus. Donc, on a, et ça ne nous surprendra pas beaucoup, une forte disparité de comportement entre les gens du premier décile, ceux qui ont les revenus les plus faibles, et ceux du dernier décile. Et puis, on a bien sûr la répartition des voyages selon le mode de transport principal. Donc, cette enquête nous permet d'avoir ici la vision de ces différents modes de transport. Voilà, donc on est avec ce périmètre-là, du coup, y compris les déplacements internationaux des Français, ce qui n'est pas la définition qu'on a dans les comptes transport, par exemple, et dans les calculs d'émissions locales. Voilà, donc juste, depuis 10 ans, le nombre de déplacements n'a pas varié, mais les distances se sont allongées. Et en fait, une des choses intéressantes quand on regarde les évolutions sur 10 ans, c'est que l'avion a vraiment explosé avec l'avion low cost. Et ça, c'est évidemment pas bon du tout en termes d'empreinte. Bon, ça, sinon, pour le reste, vous retrouvez d'autres infos du même type sur la description des déplacements des Français. Et puis, on va s'arrêter bientôt à cette partie descriptive. Répartition des voyages, des distances. Ouais, je vais vous passer. C'est juste... Le résultat principal, c'est que ces fameux déplacements pour vacances, en termes de distance parcourue, ils explosent complètement les choses, le camembert, parce que c'est là-dedans qu'on va retrouver les fameux déplacements en avion. Et voilà, ça, on croise les deux. Je vais juste aller quand même jusqu'aux émissions. Donc, on utilise des émissions unitaires par type de mode de transport. Là-dessus, vous voyez évidemment que... un résultat assez connu, hein, que le train TGV tout au bout là est 50 à 80 fois meilleur que l'avion, que la voiture. La voiture étant un peu moins mauvaise sur la longue distance que la courte distance parce qu'elle est mieux occupée. On a 2,2 personnes en moyenne sur les longs parcours et on est 1,4 voire proche de 1 sur les heures de pointe de domicile-travail sur la courte distance. 41 millions de tonnes de CO2, c'est notre estimation du secteur et c'est ça qu'on va chercher à faire décroître avec un certain nombre de leviers dont on parlera après.
Merci Béatrice pour ces chiffres, ce constat chiffré et sourcé.
Même audio, une mémoire sonore.
Je vais te passer la parole, Aurélien. Je rappelle que tu as, Aurélien Bernier, tu as publié plusieurs ouvrages sur l'écologie, la critique de la mondialisation et du libéralisme, du libéralisme économique. Et tu t'es notamment penché sur l'organisation des marchés de l'énergie. Et dans notre discussion, pour préparer cette table ronde, tu établissais un parallèle entre l'organisation du secteur de l'énergie, des marchés de l'énergie, et l'organisation des marchés des transports. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui, éventuellement avec des éléments de mise en perspective historique, ce qui s'est passé dans l'énergie et ce qui se passe dans les transports.
Oui, bonjour. Alors,
j'oubliais de dire.
Je suis désolé, j'ai laissé ma voix entre Poitiers et Toulouse, donc ça va être pénible. Mais vous connaissez les conférences gesticulées. Bon, moi je vais faire une intervention chuchotée. Ce sera peut-être moins bien, mais bon, je peux pas faire mieux. Donc effectivement, moi j'ai plutôt travaillé sur l'amont, c'est-à-dire avant de se pencher sur la façon dont on brûle l'énergie dans les transports, sur la façon dont fonctionnent les systèmes énergétiques. Et en fait, la question de la mobilité est évidemment complètement dépendante de la question des systèmes énergétiques. Et vous montriez le graphique des consommations mondiales d'énergie avec cette part du charbon qui continue d'augmenter malgré le changement climatique, malgré le fait qu'on sache que le charbon est l'énergie la plus polluante du point de vue des gaz à effet de serre. Si le charbon continue à être autant utilisé, c'est que c'est globalement l'énergie la plus abondante et la moins chère à exploiter pour faire fonctionner l'économie. Donc, les systèmes énergétiques sont absolument déterminants dans les choix de transport. Et voilà, si on nous propose aujourd'hui le véhicule électrique avec des voitures qui se rechargent plutôt que de fonctionner au pétrole, c'est parce que l'économie de la voiture électrique est compétitive par rapport à l'économie de la voiture thermique. Et sur l'énergie, la question énergétique a été traitée 1000 fois par des historiens, par des scientifiques, avec énormément de choses écrites sur la façon dont on produit de l'énergie, dont on la consomme, avec des questions techniques. Moi, je me suis intéressé à autre chose, à la propriété des systèmes énergétiques et à l'histoire de la propriété des systèmes énergétiques. Et cette histoire est intéressante parce que l'énergie industrielle, au départ, et privé, c'est-à-dire que les premiers gisements d'énergie sont exploités par des entreprises privées et par un certain nombre de grandes entreprises. C'est les grandes entreprises de l'acier, les verriers qui vont commencer à exploiter le charbon. Alors, vous avez quelques inventeurs dans l'histoire qui vont inventer, par exemple, des systèmes électriques, mais qui aussitôt vont devoir s'associer avec des banquiers pour pouvoir industrialiser. Donc, c'est vrai dans l'électricité, c'est vrai dans le gaz manufacturé. Et donc, l'énergie se développe en étant, dès le départ, privatisée. Et les pouvoirs publics vont concéder le droit d'exploiter ces ressources naturelles. Donc en fait, l'énergie privée, on a déjà connu, ça a déjà existé, un système énergétique entièrement privatisé, on sait ce que c'est. Sauf que c'était il y a tellement longtemps qu'on a oublié. Et qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était des entreprises privées qui se dégageaient une rente absolument incroyable sur l'énergie, qui n'allait desservir que les zones rentables pour les énergies de réseau en tout cas, c'est-à-dire que le courant, il arrivait dans les villes où il y avait suffisamment de consommation, le gaz aussi, parce que là c'était rentable, par contre dans les campagnes, ça n'intéressait pas le secteur privé d'aller investir pour aménager des endroits où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et se sont créées des puissances financières colossales sur l'exploitation des systèmes énergétiques. Et en fait, on a eu au XXe siècle une vague de nationalisation de l'énergie contre justement ces abus absolument incroyables des opérateurs privés. Alors, une vague de nationalisation qui a commencé au tout début du XXe siècle, alors c'est un cas très particulier, mais je ne perdrai pas ma voix à vous en parler, mais c'est très intéressant, c'est en Ontario, et c'est intéressant parce que ce sont des libéraux qui ont nationalisé, provincialisé l'énergie contre les abus des groupes privés. Donc c'est pas du tout une logique soviétique d'expropriation. C'était vraiment un combat pour récupérer la maîtrise au niveau de la province de la production énergétique et pour permettre un développement correct de la province et notamment aller électrifier les territoires ruraux qui étaient complètement délaissés par les opérateurs privés et aussi éviter que l'énergie soit envoyée aux États-Unis où elle était vendue plus cher qu'en Ontario parce qu'il y avait plus de demandes. Donc la nationalisation des systèmes énergétiques, celle de l'électricité en France, du gaz, alors en France et pas qu'en France, hein, puisque ce mouvement de nationalisation a été vraiment un phénomène mondial, avec la plupart des pays européens qui ont nationalisé les systèmes énergétiques, avec les États-Unis qui avaient, dans les années 30, mis en place un véritable service public. Alors, pas une nationalisation, mais un service public régulé et avec des trusts de l'énergie qui avaient été démantelés. Et puis, on peut penser aussi aux pays du Sud qui, après les luttes d'indépendance, ont été extrêmement nombreux, non seulement à nationaliser le pétrole, mais aussi à créer des services publics de l'électricité ou du gaz sur le modèle de ce qui s'était construit en Europe. Et en fait, ce dont il faut avoir conscience, c'est que on est en train de vivre une contre-révolution dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire que le privé est en train d'essayer de reprendre ce qui lui appartenait et ce qui lui a été confisqué à juste titre par les pouvoirs publics parce qu'ils avaient, ils s'étaient gavés sur l'exploitation de l'énergie et des systèmes énergétiques. Et cette contre-révolution dont on est en train de comprendre aujourd'hui les tenants et les aboutissants, elle a démarré il y a assez longtemps, et c'est pas un hasard, elle a démarré au Chili, sous la dictature de Pinochet, quand les ultralibéraux, les économistes ultralibéraux chiliens, se sont mis en tête de privatiser le service public de l'électricité. Et donc cette privatisation. Alors au Chili, vous aviez deux grandes entreprises. Alors deux, parce que en fait il y avait deux zones. Le pays est très étendu, mais c'est comme si vous aviez deux EDF, en fait, hein, qui faisaient la même chose. Il y avait juste une zone nord, une zone sud, donc deux entreprises publiques. Et la question était de savoir comment on allait pouvoir libéraliser tout ça. Ces entreprises publiques effectuaient la production, le transport et la distribution d'électricité et la commercialisation. Et donc les ultralibéraux inventent un modèle de dérégulation. Et ce modèle est le suivant. Premièrement, on va séparer les activités. On va séparer la production, le réseau et la vente. Et on va séparer pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant pour le privé, c'est la production et la vente. Le réseau, on s'en fout. Le réseau, c'est des coûts. Le réseau, c'est des infrastructures qu'il faut maintenir. Et là où il y a de l'argent à faire, à court terme en tout cas, c'est sur la production et sur la vente. Et donc, on sépare, ça veut dire qu'on crée des entités juridiques différentes et on découpe, c'est-à-dire qu'on va introduire de la concurrence au niveau de la production et on va introduire de la concurrence au niveau de la commercialisation en créant différentes entreprises. Ça veut dire que sur la production, vous allez vendre des centrales à un opérateur, un autre paquet de centrales, un autre opérateur, etc. Donc vous allez avoir une concurrence à la production et une concurrence sur la vente, c'est-à-dire plusieurs entreprises qui vont proposer de l'énergie aux entreprises, aux particuliers. Alors évidemment, ça rappelle un autre système qui est celui de la dérégulation du transport ferroviaire. Ça rappelle aussi, bien sûr, la dérégulation des télécommunications, parce qu'on est dans des systèmes de réseau où ce serait une aberration économique d'avoir de la concurrence au niveau du réseau. Parce que si vous aviez une vraie concurrence, ça voudrait dire que un opérateur qui veut distribuer du courant, il faudrait qu'il tire des lignes. Et donc qu'il ait des coûts absolument incroyables pour pouvoir s'implanter sur le marché. Même chose sur le réseau ferroviaire. On ne peut pas imaginer qu'un concurrent privé de la SNCF doive construire des lignes. Économiquement, ce serait une aberration. Donc, on a inventé ce système de dérégulation où le réseau reste unique, où il reste souvent public parce que il faut l'entretenir, donc ça a un coût, mais où on introduit la concurrence aux autres bouts de la chaîne. Et le dernier, la dernière étape dans ce modèle de dérégulation, à partir du moment où vous avez plusieurs producteurs et plusieurs entreprises qui font du détail, donc qui commercialisent, eh bien, pour favoriser les échanges de l'électricité entre les deux, vous allez créer une bourse, vous allez créer un marché, une place de marché, où les producteurs vont vendre en gros leur quantité d'électricité produite et où les fournisseurs vont acheter cette électricité et la revendre au détail à des particuliers, à des entreprises, à des collectivités. Voilà ce modèle. Et en fait, le modèle chilien est exactement celui qui ensuite va être repris 4 ans plus tard par Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Et 5 ans plus tard, par la Commission économique européenne, future Union européenne, et c'est exactement le système qui nous est imposé aujourd'hui. Donc ça fait quelques années, pour ne pas dire des décennies, que le sujet intéresse personne. Et aujourd'hui, bim, on a une crise de l'énergie dont on ne connaît pas l'issue, qui sera peut-être aussi grave que les chocs pétroliers des années 70. Personne ne peut le dire. Et d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à ce système. Et on découvre que cette dérégulation a introduit une concurrence absolument stupide, où d'une part, on a une concurrence entre les énergies. C'est-à-dire que vous avez un opérateur qui produit de l'électricité, il va vouloir vous vendre de l'électricité. Vous avez quelqu'un qui produit du gaz, il va vouloir vous vendre du gaz. Et on a une logique de profit qui est complètement déconnectée des usages qui serait pertinent de choisir dans une logique de sobriété et d'efficacité. C'est-à-dire que quand le Shift Project dit pour tel type d'activité, il faudrait prioriser telle source d'énergie parce que c'est ce qui correspond le mieux à l'usage qui en est fait, ça c'est une logique d'ingénieur, c'est pas la logique du marché et c'est pas la logique du politique qui aujourd'hui répond aux attentes du marché. Et si on se retrouve dans une situation où les prix de l'énergie flambent aujourd'hui dans des proportions incroyables, avec un désastre social dont on commence tout juste qu'on commence tout juste à toucher du doigt, mais qui va prendre une ampleur sans doute catastrophique. C'est parce que on a cassé un système qui fonctionnait plutôt bien, qui était celui du service public, qu'on l'a désorganisé pour l'offrir au privé par morceaux, et que avec l'introduction des bourses de l'énergie, on a rajouté une couche de spéculation. C'est-à-dire qu'on boursicote avec les contrats de fourniture d'électricité, on boursicote avec les contrats gaziers, comme on boursicote avec les contrats pétroliers. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, on a aussi eu une privatisation de l'industrie pétrolière avec un contrôle public qui était très critiquable, hein, mais qui a existé à une époque et qui aujourd'hui n'existe absolument plus. Une entreprise comme Total étant absolument libre de faire ce qu'elle veut et l'État intervenant absolument pas dans ses orientations. En faisant ça, non seulement avec cette dérégulation qui casse un système intégré, avec la spéculation qui fait grimper les prix, on arrive à une situation où les prix de l'énergie sont tellement élevés qu'on a des services qui sont obligés de s'arrêter, qu'on a des entreprises qui vont délocaliser pour aller chercher des prix de l'énergie moins chers ailleurs. Déjà qu'il ne faut pas les pousser beaucoup, mais ça fait un argument supplémentaire. Mais en plus, on est en train de confier les clés de la transition énergétique à des groupes privés comme Total, comme Engie, ou les équivalents américains de General Electric, ou les équivalents chinois. C'est-à-dire que l'État, les collectivités locales, l'Union européenne, les Nations Unies n'ont plus que le mot transition énergétique à la bouche. C'est dans tous les documents. Et en fait, et on vous parle évidemment de démocratie, de débat public, etc. Mais en fait, on est en train de confier la transition énergétique à des groupes comme Total, comme Engie, des entreprises du CAC 40. Voilà la réalité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Merci beaucoup Aurélien pour cet éclairage du marché de l'énergie et des transports. Et sur le transport, tout n'est pas encore advenu en termes de libéralisation peut-être.
Même audio, une mémoire sonore.
On va passer la parole à Philippe Descamps, donc journaliste au Monde Diplomatique, dans cette première partie de... Premier tour de table. Philippe, tu proposais de nous parler de la voiture, comment on en est arrivé au tout voiture, à ce constat de la place de la voiture dans nos déplacements. Tu utilises tes...
Oui, alors j'aurais 2-3 projections pour accompagner.
Donc une intervention relativement courte sur le premier tour pour qu'elle soit un peu plus longue sur le deuxième.
Sur le second, voilà. Mais il va aussi être question du marché, mais là, un marché encore plus direct, celui du commerce. Alors, André Gorz l'écrivait dès 1973, si la voiture doit prévaloir, il reste une seule solution, supprimer les villes, c'est-à-dire les étaler sur des centaines de kilomètres le long des voies monumentales des banlieues autoroutières. Sur une question sur la place, pourquoi on arrivait à avoir autant d'automobiles, pourquoi l'automobile a prévalu? Alors il y a beaucoup de raisons, on en a vu tout à l'heure dans le film. Moi je vais prendre un angle particulier qui est peu exploré mais qui me semble assez édifiant. Pour un dossier que nous avions fait sur l'urbanisme commercial, c'était il y a un an dans le Monde Diplomatique, c'était en juin 2021. Je m'étais intéressé à l'histoire de cette destruction en fait des villes par l'alliance du commerce et de la voiture. Il s'agissait de comprendre comment de l'Alsace au Pays Basque, de la Corse à la Bretagne, de Toulouse à Grenoble, en fait la France, un pays qui incarne la diversité des paysages, des cultures, des paysages urbains, a été enlaidie, s'est banalisée. Comment des villes qui ont un patrimoine architectural aussi riche que Toulouse, par exemple, ont pu laisser construire à leurs abords des hangars commerciaux aussi hideux qu'impersonnels, mais aussi condamnés au dépérissement de beaucoup de centres-villes. Alors cette histoire, elle est très intéressante. l'histoire de l'urbanisation commerciale de la France, l'histoire de la France moche, comme certains l'ont dit. Elle débute probablement en fait aux États-Unis, à Dayton, à la fin des années 1950, avec le slogan « No parking, no business », pas de stationnement, pas d'affaires. Le gourou de la distribution, un monsieur qui s'appelle Bernardo Trujillo, prêche l'avènement du tout automobile. Il prêche aussi les moyens d'en tirer bénéfice en jouant sur la péréquation des marges, proche de zéro pour les produits d'appel, comme l'essence, et maximale sur les autres. Son slogan, c'est « un îlot de pertes dans un océan de profit ». Et la voiture va jouer un rôle clé. Alors, comment financer ce qui va suivre, c'est-à-dire des séminaires en fait, pour former l'élite du commerce occidental? Eh bien, c'est la société National Cash Register qui fabrique en fait des caisses enregistreuses qui va financer des séminaires qui s'appellent des séminaires de méthodes marchandes modernes. Et ces séminaires vont attirer de nombreux Occidentaux et surtout des Français. En fait, à l'exception d'Édouard Leclerc, c'est le seul qui ne va pas y aller, tous les autres y sont allés. Tous les autres sont allés à Dayton, c'est-à-dire que les futurs dirigeants de Auchan, de Castorama, de Prise Unique, de Promodest, de la Fnac, du Printemps, etc., eh bien, ils sont tous allés entendre cette religion du tout automobile et l'ont ensuite converti, appliqué en France. Alors, c'était intéressant de fouiller cette histoire-là. Par exemple, le créateur de Carrefour, Marcel Fournier, il rentre de Dayton avec la conviction qu'il faut absolument voir plus grand le projet qu'il avait, doubler les surfaces de stationnement qu'il avait prévues, parce qu'il avait en tête de construire le premier hypermarché de France, qui a ouvert en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Aujourd'hui, on compte 2200 hypermarchés. On est passé en fait de 250 magasins géants de ce type en 75 à près de 400 en 80 et donc 2200 aujourd'hui. Les hypermarchés réalisent 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et environ 35% des produits alimentaires. Alors, j'ai choisi pour illustrer un peu mon propos, pour vous faire connaître le monde diplomatique pour ceux qui ne le connaissent pas, on a un appareil cartographique qu'on essaye de pousser. Et ça, c'est une carte de Cécile Marin qui nous montre l'urbanisme commercial de Lyon. Et vous voyez différentes époques, et surtout les deux premières sont très très liées à l'automobile. Alors la première, on voit, c'est la route en fait du meuble. On voit comment finalement les fabricants de meubles se sont installés le long de la route. Après, on a dans la deuxième phase, les années plutôt fin des 70, début 80, on a organisé autour des hypermarchés. Alors là, c'est le centre, la Porte des Alpes, le numéro 2. Autour de Champs, Ikea, bon, Ikea est parti depuis, mais voilà, avec des grands stationnements, quand on prend la surface totale de la zone, il y a plus de place pour la voiture que pour le commerce lui-même. Et il n'est sans doute pas anodin que la grande distribution et les constructeurs automobiles soient depuis plusieurs décennies les premiers annonceurs publicitaires, tous supports confondus. Voilà. En propageant cette croyance, la voiture individuelle, la voiture chariot, ferait gagner du temps et rendrait de tels services qu'il faudrait s'accommoder partout de ces nuisances. Pourtant, les nuisances, on les connaît. Alors ça, cette deuxième carte, elle nous montre en fait l'expansion commerciale, parce que cette expansion commerciale, elle date des années 60, mais elle continue encore aujourd'hui, encore ces toutes dernières années. Alors, les nuisances, bien sûr, les accidents, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, la contribution à l'effet de serre, le bruit, la congestion, la destruction des paysages et de la biodiversité. En fait, la spirale de la dépendance automobile se traduit en coûts externes qui sont colossaux. Ils sont même évalués aujourd'hui. Il y a une étude de l'Union européenne qui évalue à 820 milliards d'euros par an les coûts externes liés à l'usage de l'automobile. Pour la France, c'est plus de 100 milliards, c'est-à-dire 5% du produit intérieur brut. Et encore, on n'arrive pas à chiffrer peut-être ce qui est le plus visible, l'essentiel, c'est-à-dire le coût de l'étalement urbain que l'on subit aujourd'hui. Vous êtes bien placé, je pense, à Toulouse pour le comprendre. Moi, je me souviens de la première fois que je suis arrivé à Toulouse, j'avais en tête les images du centre-ville de Toulouse, des beaux bâtiments de Toulouse, et quand je suis arrivé, c'était un choc, quoi. Quand j'ai vu la place de la bagnole à Toulouse, j'étais complètement surpris, le nombre de rocades, le nombre de voitures partout, l'omniprésence de la voiture dans une ville comme Toulouse, que moi j'associe en fait beaucoup plus à son patrimoine architectural. Et en fait, ce constat-là, on le fait dans la plupart des villes françaises. La France se distinguant peut-être en Europe par son modèle d'entrée de ville, avec des hypermarchés et zones commerciales géantes, parce que la concentration qui est partie de l'alimentaire, Carrefour, en fait, elle a fait des émules dans toute la distribution, que ça soit la mode, le bricolage ou le sport, ce modèle-là s'est reproduit. Pourtant, dès l'origine, en fait, les petits commerçants se sont inquiétés des effets de ce libre jeu du marché sur le commerce. Et le législateur s'est emparé de la question dès 1973 avec la loi Royer, qui tentait en fait de limiter l'expansion des zones commerciales de ce type. Mais en fait, cette loi et le système de contrôle de régulation a été complètement dévoyé. L'hypocrisie des élus locaux de tous bords, en fait, et la corruption ont abouti à dévoyer complètement le rôle des commissions d'urbanisme commercial. Ça a été largement démontré. Aujourd'hui, il y a eu notamment une commission parlementaire en 1991 qui avait établi en fait comment la corruption pure, c'est-à-dire le financement des partis politiques, y compris même des personnages politiques dans leur vie ordinaire, était liée en fait aux attributions d'ouverture de supermarchés, ou plutôt d'hypermarchés, de zones commerciales. Alors là, c'est très intéressant parce que moi, en fait, quand on s'est intéressé au sujet, j'avais l'impression que l'essentiel, c'était en fait les années 90, 2000. J'avais pas du tout imaginé que ça continuait. Vous voyez, en fait, le plus fort de la destruction des villes par les zones commerciales et la construction de cette France moche, de cette France des ronds-points, eh bien, en fait, c'est récent. Ça s'est développé encore dans les toutes dernières années. Et pourtant, il y a eu des mécanismes de régulation. Je vous ai parlé de la loi Royer. Ensuite, il y a eu la loi Sapin sur les marchés publics, la loi Galland en 96 sur les ventes à perte, la loi Raffarin en 96 abaissant les seuils d'autorisation pour essayer de freiner le mouvement. Mais alors, il y a eu un phénomène intéressant. C'est en 2007 l'élection de Sarkozy qui a monté une commission pour la libération de la croissance française. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette commission qui était présidée par Monsieur Jacques Attali et qui avait pour rapporteur un certain jeune qui s'appelait Emmanuel Macron, je crois, un nom comme ça. Cette commission a préconisé en fait d'abolir toutes les dispositions, enfin la plupart des dispositions des lois protectrices. Et d'appliquer en fait avec zèle la directive européenne sur les services dans ce domaine-là de l'urbanisme commercial. Ça s'est traduit par une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie, qui est de août 2008 et qui a ouvert grand en fait les vannes. La machine à produire de la grande surface s'est emballée en fait au tournant de ces années fin 2007, à partir 2007-2008. Voilà. Vous le voyez là. Ensuite, il y a d'autres phénomènes qui expliquent la baisse. Alors cet emballement, il tient tout d'abord aux bénéfices tirés de la concentration en fait, puisque 1% des points de vente génèrent un tiers du chiffre d'affaires du commerce de détail en magasin. Mais il y a plus rentable encore, c'est d'investir dans les terrains et les murs de vente de la surface commerciale. Vous voyez là, les résultats des principaux opérateurs d'urbanisme commercial. Juste pour finir, ailleurs, l'urbanisme commercial a pu prendre des formes différentes. Il y a quand même un modèle français qui n'est pas forcément le plus beau. Par exemple, en Europe du Nord, on a plutôt une structure de supermarché de proximité, de plus petites surfaces. Et ça, on peut le mesurer en comparant France et Allemagne. Par exemple, en France, les centres-villes, ça représente plus que 25% du chiffre d'affaires du commerce, 62% pour la périphérie et à peine 13% pour les autres quartiers, dont les quartiers populaires qui sont les plus mal servis, hein, évidemment. En Allemagne, en fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers centre-ville, un tiers périphérie, un tiers... autres quartiers. En fait, tandis que la France facilitait l'arrivée des spécialistes allemands du rabais, vous avez vu arriver Aldi, vous avez vu arriver Lidl, en fait l'Allemagne, elle, résistait à la pression de Bruxelles, de la Commission européenne, qui voulait imposer sa réglementation sur les services, sa directive sur les services, et elle a tenu tête à la Commission européenne pour conserver ce modèle d'urbanisme. Alors, ce n'est pas non plus génial, mais on a quand même une réduction. Il y a un vrai contrôle qu'on le voit par les chiffres que je vous ai donnés. Voilà. Et donc, par la réduction du trafic automobile associé à cette partie-là des déplacements. C'est qu'une partie des déplacements, mais c'est une partie importante.
Merci, Philippe, pour cet éclairage.
Même audio, une mémoire sonore.